Bienvenue dans Rare et Free Europe, le podcast qui analyse le rôle du Portugal et de la CIA lors de la guerre froide. Présenté par Antoine Thirion, il vous propose de plonger, en 5 épisodes, au cœur des années 50 et 60 pour tenter de comprendre le rôle joué par ces différents acteurs. Hypocrisie, ingérence politique et rôle des médias, rien n'y échappera. Épisode 3, Budapest 1956, le mensonge occidental.
Olimpiára készülős nagyszerű versenyzőink és a magyar labdarúgó válogatott valamennyi tagjának érzéseit, gondolatait tolmácsolja. Ismerjük egymást jól, ott voltunk mindig együtt, amikor a piros-fehér-zöld színek dicsőségéért szálltak harcba a magyar...
Plus encore que les autres populations du bloc de l'Est, les Hongrois apprécient tout particulièrement les commentaires sportifs de Radio Free Europe. Cette ouverture répétée vers les radios occidentales permet à ses auditeurs d'avoir conscience d'un monde différent du leur. Lorsque RFE diffuse le rapport Khrouchtchev, dont nous avons parlé dans le premier épisode, elle ouvre une porte trop longtemps fermée au sein du rideau de fer, celle de la discussion critique. Une libération qui trouve particulièrement écho en Hongrie, où une certaine maturité politique individuelle s'est développée. Le 27 juin 1956, une réunion du cercle Petőfi entre intellectuels et citoyens est une révélation. Les Hongrois se rendent compte qu'ils sont une majorité à demander du changement. La critique s'étend à l'ensemble de la société et semble même gagner certains lieux de pouvoir. Dans les années 1950, la radio est devenue le média par excellence. Entièrement sous la férule du pouvoir dans le bloc de l'Est, elle débute un flot de mensonges totalement contradictoires à l'expérience quotidienne de la population. En tant que média de masse, la radio intéresse les protestataires qui veulent conquérir son droit à la parole. Ils la perçoivent comme un moyen de relayer leur lutte en touchant le public de la nation entière. En octobre 1956, ils se rendent au siège de la radio nationale à Budapest pour faire connaître leur mouvement. Et, comme nous l'avons vu lors du premier épisode, les programmes de RFE vont pousser la population à se faire entendre.
A magyar főváros továbbra is el van zárva a külvilágtól. A nyugati hírszolgálati irodák és a nyugati hatalmak külügyminisztériumai mindeddig nem tudtak telefonösszeköttetést teremteni budapesti képviseleteikkel.
23 octobre 1956, 18h. Les manifestants se présentent devant l'immeuble de Radio Kossuth, la voix officielle du pays. Mais l'accès leur est interdit. À 20h, les haut-parleurs du bâtiment se mettent en route. Le premier secrétaire du parti, Ernaud Guéreux, qualifie les événements de la journée de « provocation nationaliste ». Scandalisés, les manifestants tentent de pénétrer de force dans le bâtiment. Vers 21h, les premiers coups de feu éclatent. Ce premier affrontement pour la radio fait plusieurs dizaines de morts et de blessés. L'assaut est un échec, les journalistes fidèles au pouvoir se sont retranchés dans l'enceinte du Parlement et diffusent leurs émissions sous la protection des chars soviétiques qui ont été appelés secrètement par Guéreux. Avec l'intervention de l'armée rouge, vécue comme une provocation, l'émeute vire à l'insurrection. Dans la nuit, le comité central désapprouve Guéreux et nomme Imre Nagy, réclamé par la foule, comme nouveau premier secrétaire. Le 24 octobre à 8h, il est annoncé sans explication et la population croit alors que c'est lui qui a appelé les troupes soviétiques. Radio Free Europe relaie massivement cette fausse information. Et ce n'est pas tout, Nagy rate son discours. On voulait l'entendre condamner la clique Guéreux, il demande aux insurgés de rendre les armes. Le mouvement insurrectionnel décide alors de produire sa propre parole. Et pour ce faire, il va s'emparer de la radio, sa meilleure alliée.
A pártot harcra, áldozatkészségre, hősi helytállásra, a marxizmus-leninizmus győzelmes fegyverének jó kezelésére. Az, hogy van pártunk, amely a bölcsesség és a bátorság erejével vezeti népünket győzelemről győzelemre.
Entre le 24 et le 26 octobre, le pays connaît une mobilisation générale exceptionnelle. Le régime a beaucoup coupé les communications, des appels à la résistance se font rapidement entendre sur la radio régionale de Mikolc. Elle est suivie, les jours suivants, par les villes de Pécs, Győr et Debrecen, puis toutes les grandes villes de province. L'émergence progressive de ces radios rebelles démontre à quel point le soulèvement populaire est en train de gagner tout le pays. La voix de cette Hongrie révoltée se fait toujours plus forte, au point de submerger celle de Radio Kossuth. Pour augmenter leur impact, les radios rebelles décident de coordonner leurs émissions. Le 2 novembre, elles diffusent toutes le même programme. L'ampleur est telle que Radio Kossuth ne peut plus rester absente. Plus les insurgés gagnent en légitimité, plus la ligne éditoriale officielle s'adoucit. Le 30 octobre, la radio nationale fait même son autocritique.
Depuis des années, la radio a été un instrument de mensonge et seulement le moyen de transmettre des consignes. Elle mentait jour et nuit. Elle mentait sur toutes les longueurs d'onde. Mais la lutte qui a apporté la libération nationale a aussi libéré notre radio. Nous dirons la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Bienvenue sur Radio Cauchou Libre.
Le 3 novembre, Radio Cauchou Libre et Radio Petefi Libre fusionnent. Le 30 octobre, Nagy abolit le principe de parti unique et ordonne le retrait des troupes soviétiques. La crise semble être passée. Pendant 4 jours, le pays va vivre une incroyable parenthèse de liberté retrouvée. Le 3 novembre, Nagy annonce la formation d'un gouvernement de coalition qui ne contient plus que 4 communistes. Le lendemain, les radios appellent à la reprise du travail. Le lundi 5 novembre doit être celui du retour à la normale. Mais ce que les Hongrois ignorent, c'est que les chars soviétiques sont en train de préparer une attaque éclair. Elle aura lieu au petit matin et personne ne s'y attend. L'avènement de la liberté hongroise est intrinsèquement lié à la radio. Sa chute brutale s'y déroulera aussi.
Támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
Le 4 novembre, à 5h15 du matin, Imre Nagy annonce d'une voix tremblante l'entrée en masse des chars soviétiques. L'hymne national, qui conclut son intervention, exprime l'enjeu de la situation, l'indépendance du pays. Son allocution est également retransmise en anglais, français, allemand et russe, comme pour prendre le monde à témoin. À 7h56, un appel à l'aide des intellectuels hongrois est diffusé sur les ondes.
À tous les écrivains, à l'élite intellectuelle du monde, à tous, nous demandons aide et secours. Le temps est compté. Vous connaissez les faits. Aidez la Hongrie. Aidez le peuple hongrois. Au secours. Au secours.
15 minutes plus tard, les lignes sont coupées. RFE et la BBC deviennent alors les seules sources d'informations pour la population. À 21h, la radio nationale annonce la constitution d'un nouveau gouvernement présidé par János Kádár qui a demandé l'aide des troupes soviétiques la veille. À nouveau sous le contrôle soviétique, Radio Cauchou Libre reprend son nom originel. C'en est fini de la liberté. La répression est de retour. Dans les mois qui suivent, 15 000 Hongrois perdront la vie et 5 000 seront arrêtés sans jugement. Jusqu'à son éviction en 1988 pour cause de sénilité, János Kádár ne cessera de violemment rabrouer tout épisode et personnalité lié à l'insurrection de Budapest. S'il peut apparaître étonnant que les Hongrois se lancent à ce point dans la rue pour revendiquer leurs droits et leurs libertés, il faut prendre en compte un élément très important. En plus de leur sentiment de devoir national, ils sont persuadés qu'ils seront aidés et soutenus par l'Occident. Durant les années précédentes, les déclarations réitérées des Occidentaux contre la mainmise de l'Union soviétique sur l'Europe centrale ont en effet alimenté un espoir bien réel. Un sondage réalisé en 1957 auprès de réfugiés hongrois indique que l'écrasante majorité de ceux qui se sont engagés dans la lutte armée croyaient sincèrement en l'aide occidentale. Mais derrière les beaux discours, les pays de l'Ouest n'ont rien fait. La session du 28 octobre de l'ONU n'adopte même pas la moindre résolution sur la Hongrie. Au début de la guerre froide, les États-Unis avaient officiellement acté la libération des peuples captifs du communisme comme objectif prioritaire. La crise hongroise révèle que rien n'a été prévu à cet effet. Laurens de Neuville témoignera qu'en arrivant à RFE en 1954, il avait demandé
« Que se passe-t-il si un homme en imperméable débarque ici et dit « Nous avons écouté tous vos topos et nous sommes prêts à faire la révolution. » On en a discuté à une séance exceptionnelle du Conseil et on n'a pas su quoi faire. C'était un château de cartes. »
Après 10 années de complots, d'analyses et de projets pour la libération des peuples européens, l'Amérique refuse de bouger lorsque les soviétiques montrent les muscles. Cette terrible désillusion et cette impression de mensonge expliquent sans doute en partie pourquoi le soulèvement qui suit, en 1968 en Tchécoslovaquie, ne développera pas du tout le même rapport aux radios occidentales.